Josué a solennellement affirmé qu'il obéirait au premier commandement de la loi qui dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Fin de citation. Il a décidé qu'il servirait l'Éternel de tout son être. Par sa déclaration solennelle, il a embrasé l'esprit religieux de ses compatriotes. Alors, comme un seul homme, ils ont proclamé bien haut qu'ils feraient de même. Cependant, Josué n'est pas tombé de la dernière pluie. Il ne se fait aucune illusion sur le peuple. Moi aussi, je suis généralement plutôt bien disposé. Mais dans la pratique, comment est-ce que je me comporte vraiment? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon, n'est-ce pas? Je continue le texte du dernier chapitre de Josué. « Alors Josué dit au peuple, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. Il ne tolérera ni vos révoltes, ni vos péchés. Si vous l'abandonnez pour adorer des dieux étrangers, il se retournera contre vous pour vous faire du mal. » Après vous avoir fait tant de bien, il vous consumera. Non, répondit le peuple, c'est bien l'Éternel que nous voulons adorer. Versets 19 à 21. Josué n'est pas satisfait de leur élan d'enthousiasme et les met en garde contre eux-mêmes. Il espérait que les Israélites s'avanceraient spontanément devant lui pour déposer leurs idoles afin qu'elles soient brûlées publiquement. Mais rien de cela n'eut lieu. Il veut alors que les Israélites prennent conscience des implications draconiennes que revêt leur engagement. Le culte à rendre à l'Éternel est exigeant et Josué veut s'assurer qu'ils entrent dans cette alliance solennelle en toute connaissance de cause. La bonne volonté est seulement bonne si elle est suivie d'effets, sinon c'est de la présomption. Si le peuple abandonne son Dieu pour servir des idoles, il commettra un crime de lèse-majesté, un acte de rébellion à main levée, pour lequel il n'y a pas de pardon possible selon la loi. Je continue le texte. Josué reprit. Vous êtes vous-même témoin contre vous que vous avez vous-même choisi l'Éternel pour l'adorer. Ils répondirent. Nous en sommes témoins. Dans ce cas, dit Josué, « Débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent encore au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Le peuple répondit, « Nous adorerons l'Éternel, notre Dieu, et nous lui obéirons. » Versets 22-24. Le peuple s'est maintenant résolument engagé envers l'Éternel à trois reprises. Alors, sachant très bien que beaucoup d'Israélites pratiquaient l'idolâtrie en secret, Josué demande à ce qu'ils prouvent leur sincérité en se débarrassant de leur statuette. Je continue. Ce jour-là, à Sichem, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna une loi et des décrets. Josué consigna ces choses par écrit dans le livre de la loi de Dieu. Puis il prit une grande pierre et la dressa là, sous le chêne qui se trouvait dans l'enceinte du sanctuaire de l'Éternel, et il dit à tout le peuple, « Cette pierre servira de témoin entre nous, car elle a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a adressées. Oui, elle servira de témoin contre vous, pour que vous ne reniez pas votre Dieu. » Versets 25 à 27. Cette grande pierre constitue le septième mémorial mentionné dans le livre de Josué. Il sert de témoin visible et symbolique à l'engagement solennel pris par le peuple à l'égard de l'Éternel leur Dieu. Je continue plus loin en compressant. Après ces événements, Josué, fils de Noun, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. On l'enterra dans le domaine qu'il avait reçu pour propriété. Les Israélites servirent l'Éternel pendant toute la vie de Josué et après sa mort, tant que vécurent les responsables qui avaient vu toute l'œuvre de l'Éternel en faveur d'Israël. Versets 29 à 31. Ces chefs du peuple sont ceux qui étaient nés lors du séjour de 40 ans dans le désert et qui ont été les témoins des signes et des prodiges de l'Éternel durant les pérégrinations d'Israël et pendant les conquêtes de la terre promise. Josué fut à la fois un chef militaire, politique et spirituel. Son influence était si forte, ainsi que celle des responsables du peuple, que tant que ces hommes étaient en vie, les Israélites suivirent leurs exemples en servant l'Éternel. L'homélie pour Josué fut toute simple. Il était un serviteur de l'Éternel. C'était le plus grand hommage qu'on pouvait lui rendre. Je finis ce chapitre et ce livre. On ensevelit aussi à Sichem les ossements de Joseph que les Israélites avaient ramenés d'Égypte. On les inhuma dans le terrain que Jacob avait acheté pour 100 pièces d'argent aux descendants de Hamor, le père de Sichem, et qui faisait partie du patrimoine des descendants de Joseph. Éléazar, fils d'Aaron, mourut aussi et on l'enterra sur la colline qui avait été attribuée à son fils Phinéas dans la région montagneuse d'Éphraïm. Versets 32 à 33. Les Israélites accomplirent le serment qu'ils avaient fait à Joseph sur son lit de mort, d'enterrer sa dépouille en terre promise. Elle avait été embaumée en Égypte et ses fils l'avaient transportée avec eux pendant 40 ans dans le désert. Ses os de Joseph étaient maintenant vieux de 400 ans. Ils furent inhumés à Sichem, dans le terrain que Jacob avait acheté pour sa famille et qui faisait maintenant partie du territoire de la tribu de son fils Éphraïm, à côté de celui de son autre fils Manassé. Avec la disparition de Josué et du grand prêtre Éléazar, une page importante de l'histoire d'Israël est tournée. Privé de ces deux grandes figures et confronté à sa nouvelle situation sédentaire dans le pays de la promesse, encore habité par des peuplades idolâtres, la situation va vite se dégrader. Ce livre, qui a commencé avec la mort de Moïse, se termine par les enterrements de Joseph, Josué et Éléazar. Tous trois vécurent en terre étrangère où ils reçurent la promesse de l'Éternel qu'il leur donnerait un pays qui serait le leur. Leur dépouille, qui repose en terre promise, est la preuve que Dieu s'est montré fidèle, car il a tenu parole. Pour vous et pour moi, cela signifie que notre Créateur est digne de foi et que tout ce qui est contenu dans les Écritures est vrai et s'accomplira. De manière assez logique, le livre de Josué est suivi par celui des Juges. C'est le septième des livres de l'Ancien Testament. Il est bâti autour de 12 personnages qui ont reçu le titre de « Juges ». Ce livre constitue un élément important de la grande fresque qui nous permet de suivre l'histoire d'Israël de la conquête de Canaan à l'exil babylonien. Il nous offre quelques aperçus de l'évolution historique et religieuse des Israélites entre la fin de la conquête et la veille de l'inauguration de la monarchie. Son titre en français est la traduction habituelle de son nom hébreu. Cependant, un juge en Israël avait une fonction plus large que quelqu'un qui rendait la justice. Les 11 juges hommes furent à la fois des magistrats et des responsables politiques et militaires. Ils étaient des chefs-juges en quelque sorte. Mais leur influence se cantonnait à une zone géographique très limitée du pays de Canaan, quelquefois à une seule tribu. La quatrième magistrature décrite est celle de Déborah. Cette femme exerça uniquement une fonction de juge. Sous son autorité, c'est un dénommé Barak, un homme de grande foi, qui exerça le commandement militaire. Cependant, aucun de ces 12 personnages n'eut une envergure nationale comme Moïse ou Josué. Ils étaient suscités par l'Éternel pour délivrer son peuple repentant des ennemis qui l'opprimaient. Ils avaient aussi pour mission de l'appeler au respect de la loi et à l'abandon de l'idolâtrie. La période couverte par ces 12 juges commence pendant la première moitié du XIVe siècle avant Jésus-Christ, au plus tard vers 1350, et couvre 300 années d'histoire. Il semble que ce livre ait été écrit autour des années 1030 avant Jésus-Christ, à 10 ans près, après le couronnement de Saül, premier souverain sur les 12 tribus, et avant la prise de la citadelle, la partie haute de Jérusalem, par David, le deuxième roi d'Israël au début de son règne. L'auteur de cet ouvrage ne s'est pas identifié, mais une tradition juive ancienne l'identifie à Samuel, qui fut lui aussi juge avant et pendant les monarchies de Saül et de David. L'histoire commence au moment où les Israélites sont bien installés en terre promise, avec le cœur plein d'espoir pour l'avenir. Ses descendants de Banyar avaient été libérés par l'Éternel et vu ses prodiges dans le désert et lors des conquêtes sous la direction de Josué. Israël avait reçu de Dieu le pays de Canaan pour y supprimer l'idolâtrie particulièrement répugnante qui était pratiquée et pour y établir une véritable théocratie, c'est-à-dire un régime qui reconnaît la royauté de l'Éternel. La primauté de la loi de Moïse avait été proclamée dès l'entrée dans le pays. Le sacerdoce, issu du grand prêtre Aaron, devait assumer un rôle clé dans le culte et dans la diffusion de la connaissance des ordonnances divines. Il était prévu que la vie nationale gravite autour du sanctuaire unique établi sous Josué dans la ville de Silo, dans le territoire de la tribu d'Éphraïm. Les affaires courantes aurait dû être réglé par l'application de la loi sous la présidence de magistrats et notables locaux et même de dirigeants régionaux. On aurait pu s'attendre à ce qu'avec l'aide de leur Dieu, les Israélites imposent leur suprématie sur tout le territoire de Canaan. Mais il n'en fut rien. Ils commencèrent avec des étoiles dans les yeux qui très rapidement devinrent du sable. Le livre débute par un prologue qui présente la situation dans laquelle va se dérouler l'histoire des chefs juges et qui est la suite de la vie en Israël après la mort de Josué. Ce dernier avait achevé la première phase de la conquête qui consistait à installer chaque tribu dans son territoire. Il restait à accomplir la seconde phase de la conquête. À chaque tribu incombait le devoir de chasser les Cananéens et de prendre possession de la totalité du territoire qui lui était imparti. Le prologue nous apprend qu'elles n'y ont que très partiellement réussi, et même pour certaines d'entre elles, pas du tout. Cet échec est imputé à l'infidélité des Israélites qui auront à subir les lourdes conséquences de ce manque d'obéissance envers l'Éternel et du maintien des Cananéens idolâtres au milieu d'eux. Face à cette situation, l'Éternel ne cesse de manifester sa grâce et sa patience en pardonnant à son peuple et en le libérant de l'oppression qui constitue un châtiment pourtant bien mérité. Il suscite pour cela les 12 juges qu'il utilise en dépit de leurs faiblesses, les rendant capables, malgré tout, d'accomplir leur mission en leur donnant son esprit. Son action est maintes fois mentionnée par l'auteur pour souligner que c'est l'Éternel qui accorde la délivrance. C'est bien à la seule grâce de Dieu qu'Israël doit sa survie comme nation, une grâce qui va jusqu'à la conservation, parfois de justesse, des 12 tribus issues de Jacob. Un titre plus parlant pour ce livre serait « Défaite et délivrance ». Le style de l'auteur est à la fois varié et alerte et vient compenser le caractère répétitif du cycle infidélité, châtiment, délivrance que l'on retrouve tout au long de la partie centrale du livre. Il présente fréquemment ses histoires selon un schéma dans lequel il met en parallèle un fait présent avec un événement passé. Ainsi, la vocation d'un des juges rappelle celle de Moïse. Et une très sombre affaire de mœurs fait tout de suite songer à Sodome. Si les détails pittoresques ne manquent pas, ils ne revêtent pourtant pas un caractère folklorique, car tout est subordonné au message destiné au lecteur, désireux de tirer les leçons des manquements graves du peuple de Dieu. La partie principale du livre relate bien sûr l'histoire de ces 12 personnages appelés juges. Elle débute par un deuxième prologue qui brosse un tableau général de cette période particulièrement sombre. L'infidélité des Israélites, envisagée maintenant sous son aspect cultuel, ne constitue pas qu'un phénomène passager, mais va caractériser la conduite de la nation tout au long de ces 3 siècles que couvre le livre. Les récits choisis par l'auteur pour illustrer les carences spirituelles d'Israël font souvent frémir d'horreur. Les Israélites s'éloignent toujours plus de leur Dieu et l'histoire suit alors un processus cyclique qui se répétera plusieurs fois avec les étapes suivantes. Tout d'abord, un refrain signale que la boucle commence. Je cite un passage. « Alors, les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal, et ils se mirent à rendre un culte aux dieux Baal et aux Astartés. Alors, l'Éternel se mit en colère et les abandonna aux violences des pillards qui les dépouillèrent. Il les livra au pouvoir de leurs ennemis d'alentour, de sorte qu'ils ne furent plus capables de leur résister. » Fin de citation. La deuxième phase du cycle est le châtiment de l'infidélité des Israélites. L'Éternel les abandonne au pouvoir de leurs ennemis qui les oppriment. En troisième lieu, sous le poids de la détresse, les Israélites implorent leur Dieu. Quatrièmement, celui-ci leur suscite un libérateur qui les délivre de leurs ennemis et leur assure une certaine tranquillité pendant un temps. Et le cycle est terminé. 6 des 12 juges retiennent plus particulièrement l'attention de l'auteur qui relate leurs actes dans le cadre du processus désobéissance, châtiment, repentance, délivrance. Les cycles qui se succèdent pour relater l'histoire de la période des chefs juges ne sont pas de simples répétitions les uns des autres. Au fil de cette histoire, les choses empirent progressivement. La repentance du peuple se fait de plus en plus superficielle au point de compromettre l'avenir même de l'alliance conclue au Sinaï et la possession du pays promis. La vie même des chefs juges se dégrade. Leur foi est de moins en moins éclatante et leur méthode de plus en plus contestable. Ainsi, les 5 premiers libérateurs procurent la paix à leurs compatriotes, tandis que l'œuvre des suivants n'est plus couronnée par des résultats aussi positifs. En outre, si Othniel, le premier d'entre eux, est un libérateur modèle, Samson, le dernier, dont on a fait des films, se laisse dominer par ses passions et n'accomplit sa mission que dans des circonstances tout à fait déplorables. Et pourtant, il fait partie des héros de la foi cités dans le Nouveau Testament. Les périodes des 12 juges ne se situent pas dans une succession chronologique, mais se chevauchent en partie les unes les autres. C'est la preuve qu'en Israël, pendant cette période de 300 ans, le régionalisme avait éclipsé l'unité nationale. Le livre se termine par un appendice qui comporte 2 volets. Le premier part d'un vol et montre comment le culte de toute une tribu est devenu idolâtre. Le second débute lui aussi par un fait divers et de là met en évidence l'engrenage du mal qui a failli entraîner la disparition de la tribu de Benjamin, pour ainsi dire exterminée par une guerre fratricide. Ces 2 derniers récits relatent des événements qui se sont produits dès la 2e génération après Moïse, c'est-à-dire perpétrés par les enfants de ceux qui firent la conquête du pays. Cette information montre que les Israélites ont très tôt sombré dans la débauche idolâtre, le délabrement moral et l'anarchie. Dès la disparition des hommes de guerre qui firent la conquête sous Josué, une très grande décadence s'est aussitôt installée. À 2 reprises dans ce livre, on trouve ces paroles « En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qu'il jugeait bon. » Fin de citation. Cette affirmation caractérise bien cette période d'affaiblissement à la fois spirituel, politique et militaire de la nation d'Israël. Ce qui s'est passé avec le peuple élu peut arriver à n'importe quel chrétien, aussi consacré soit-il. Alors, il me faut constamment veiller sur moi-même.